simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que j'ai pas demandé les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Grégor. Chaque semaine, chez les Goligari, à Montpellier, Canada Sud, à Toulouse. La locale à Saint-Girons et bien évidemment Radio Primitif sur Reims où cette émission est réalisée. Les Rigor, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir, on va commencer par une bonne nouvelle à vous annoncer, puisque vous vous rappelez certainement de l'affaire de petit Sam Bouchera, qui était menacé de licenciement, que le licenciement avait été refusé par le truc du travail local,
l'inspection du travail,
et puis finalement la partie adverse, c'est-à-dire son employeur, avait fait appel au ministère du travail, et le ministère du travail vient de refuser son licenciement pour des motifs de forme apparemment, on n'en sait pas plus, mais c'est une très bonne nouvelle pour tous ceux qui sont mobilisés pour elle, et surtout pour elle. Allez, à bientôt. On va peut-être passer à autre chose maintenant. Oui. Je crois qu'on va parler de la lutte de Bure.
On va parler de la lutte de Bure. On a avec nous Gaspard à l'antenne. Bonsoir Gaspard.
Salut.
Alors on va parler de la forte répression qui a eu lieu ces derniers jours à Bure. Tu étais au cœur des événements. Et comment tu peux nous retracer cet événement? C'est assez, comment dire, énorme, quoi. On en perd les mots, quoi. Je crois que quand ça a commencé, tu as réussi à t'isoler pour écrire quelques éléments pour le diffuser le plus loin possible. Comment tu as vécu ça?
Ah, c'est assez difficile de parler d'une perquisition, parce que une perquisition, c'est pas simplement le fracas, tu vois, de quelques vitres qui sont cassées, la porte défoncée par les gendarmes. C'est pas seulement la fouille de ton lieu de vie, en fait. Ça touche un peu à ton intimité, quoi. Ça touche un peu à ton espace où tu vis, l'espace vécu, à tes amitiés, à tes liens avec les gens. Enfin, donc c'est vraiment une sorte une forme de viol de l'intimité, quoi. Et donc il faut imaginer qu'il était 6h30 du matin, mercredi, donc 20 septembre, 150 gendarmes débarquent à la maison de résistance et dans quatre autres lieux de la lutte de Bure. Parce qu'en fait, depuis maintenant quelques années, on s'est installé dans les villages autour et du coup, ils ont aussi perquisitionné les domiciles privés d'opposants au projet Cigéo. Donc, ils débarquent avec manu militari, ils défoncent la porte, ils cassent les vitres des caravanes. Ils mettent en joue des personnes en disant perquisition, opération de gendarmerie, ne bougez pas, surtout ne bougez pas. Donc avec des armes à feu, enfin, faut imaginer, c'est quand même complètement, tu es dans un petit village rural d'une centaine d'habitants et puis tu vois débarquer toute cette armada. Donc
oui, je crois que c'est complètement surréaliste en fait. Hein. Mais c'est l'aboutissement d'une stratégie d'occupation militaire et policière, hein, qui est à son point d'orgue.
Oui, voilà, il faut pas le séparer de tout ce qu'on vit au quotidien, en fait.
Voilà.
C'est juste le point d'orgue, tu vois, parce que après, nous, au quotidien, on vit De l'harcèlement policier, quoi, du contrôle au faciès, du contrôle d'identité. Il y a des gens qui ont été contrôlés 35 fois en un mois, tu vois, donc c'est assez énorme. Et puis tout simplement, moi, je me suis réveillé parfois à 2h du matin parce qu'ils éclairent la fenêtre de ma chambre en disant c'est une maison des opposants, il faut la surveiller. Et donc, tu as des patrouilles comme ça, c'est surréaliste, hein, tu as des patrouilles d'une dizaine de gendarmes, t'entends le bruit des bottes la nuit à Mandran-Barrois, quoi, enfin. Donc c'est.
Il faut rappeler combien il y a d'habitants à Mandran-Barrois.
Ouais, une centaine, quoi, tu vois.
Oui.
Et donc, on a 100 gendarmes mobiles en permanence qui sillonnent le territoire entre la forêt, le Bois-le-Jus, hein, que je rappelle, il est toujours occupé par les opposants, et puis les villages alentours, l'Andra. Donc, ouais, ça fait une présence policière assez énorme. Et là, on voit bien qu'avec ces perquisitions, la préfecture essaye de jouer la stratégie de la tension, la stratégie du pourrissement, quoi. Parce qu'on voit bien qu'en haut, les autorités, par contre, Nicolas Hulot, tout ça, ils sont bien embêtés et on les entend pas trop, ils sont mutiques, quoi. Leur silence est assourdissant, tu vois. Il est aussi assourdissant que les grenades qu'on nous a balancées le 15 août, quoi. Et donc, ils jouent une stratégie de la tension, c'est clair, ouais.
Donc, pour reprendre un petit peu les événements, le 20 septembre à 6h du matin, 150 gendarmes mobiles débarquent à Bure, c'est bien ça, la maison de la résistance.
Oui, mais aussi
ouais. Voilà, mais aussi dans d'autres villages que tu peux peut-être nous préciser.
Ouais, alors ils débarquent dans un appartement à Mandre. Ils débarquent aussi à l'ancienne gare de Luméville, qui est un lieu qui est habité par quelques dizaines d'opposants, où on y fait souvent des festivals, de la musique, des concerts, où il y a aussi du maraîchage, un gros potager. Et on squatte un champ de l'Andra juste à côté de 2 hectares. Donc il y a ce lieu-là qui a été perquisitionné. Et après, il y a un appartement à Commercy et un appartement à Verdun.
Alors Commercy, c'est à quelle distance, par exemple, de Bure, pour qu'on se représente un peu ?
C'est une cinquantaine, soixantaine de kilomètres.
Ouais, et donc, Verdun ?
80 kilomètres.
80 kilomètres.
C'était vraiment une opération réfléchie, pensée à l'avance. Tu vois, ils ont agi dans toute la Meuse, quoi. Donc, c'est 5 lieux qui ont été touchés. On a vraiment l'impression de revivre un peu cette opération Tarnac, tu vois, qui, à la fin des années 2000, là, qui a été aussi mûrement réfléchie et pensée par le parquet antiterroriste, quoi.
Oui.
Là, on est en train de revivre cette même, un peu ces mêmes scènes, quoi.
Alors, il faut préciser que cette opération est encadrée par le procureur en personne, le procureur qui était au procès de Jean-Pierre Simon récemment.
Le 12 septembre.
Le 12 septembre dernier, et le juge. Ils sont présents sur les lieux.
Ils n'étaient pas présents sur les lieux, il y avait juste le colonel et le commandant de la gendarmerie.
D'accord.
Le fameux Dubois qu'on commence à bien connaître. Mais disons que oui, le procureur a lancé plusieurs enquêtes, notamment sur des actions un peu clandestines qui avaient eu lieu sur l'hôtel-restaurant et sur les tweets de la manifestation du 15 août dernier où il y avait eu des affrontements avec les forces de l'ordre.
Mmh.
Mais on sent que c'est un peu malgré tout un prétexte en fait, un prétexte pour avoir saisi l'ensemble de notre on va dire automédia, de nos outils de communication, parce que ce qu'ils cherchaient avant tout, c'était pas tant des bouteilles incendiaires ou toutes ces choses-là. Ce qu'ils ont pris, c'est nos 40 ordinateurs, 60 téléphones et surtout un photocopieur, quoi. Un énorme photocopieur, et ça montre bien qu'en fait, ils cherchent, c'est une sorte de censure, ils cherchent à nous casser nos moyens de diffuser des tracts et tout ça, quoi.
Ce qui me semblait avoir compris, c'est qu'en fait, quand ils ont débarqué avec un camion de déménagement, c'est ça ?
Exactement.
Exactement. Oui. En étant prêts donc à embarquer, ils savaient déjà qu'ils allaient embarquer beaucoup de choses.
Oui.
Il me semble avoir compris aussi qu'ils ont saisi tout ce qu'ils ont pu comme liste de noms, d'adresses, de contacts, etc.
Exactement, oui.
Et pour revenir un petit peu, alors moi, parce qu'il y a cette histoire de perquisition sur les différents lieux où ils ont saisi beaucoup de matériel et où ils ont fait de la casse. Moi, je trouvais intéressant que tu nous décrives un petit peu l'occupation policière des lieux. Alors, Moi, je dis policière, mais finalement, c'était des gendarmes mobiles, c'est bien ça?
Oui, c'est une occupation militaire.
Voilà, quoi. C'est une occupation militaire. Et donc, dans le village de Mandres, il me semble avoir compris qu'il y avait aussi pas mal de gendarmes et que le village était bouclé toute la journée.
Oui, exactement. Pendant les perquisitions ont duré jusqu'à 15 heures. Hein. Mmh. À Mandres-en-Barrois, ça a duré jusqu'à vers midi, 13 heures. Du coup, ça... Oui, c'est plusieurs heures où le village était bouclé et les gendarmes étaient en tenue, quoi, étaient en tenue anti-émeute, quoi.
Mmh. Et donc, ça permettait pas aux gens de sortir de chez eux? Comment ça s'est concrétisé, ça?
Bah oui, il y a eu plusieurs paysans qui ont râlé, évidemment, parce qu'ils pouvaient pas avancer leur tracteur, parce qu'ils étaient bloqués, parce qu'il y avait un surcroît de contrôle d'identité. Mais ça, c'est en fait cette exaspération, elle est forte depuis des mois, en fait, depuis des semaines, et tout le monde commence à détester la police, quoi. C'est plus du tout qu'un slogan, quoi. C'est une réalité, quoi.
Oui.
Vraiment, on le sent, quoi, sur le territoire. Parce qu'en fait, ils n'arrivent plus trop à distinguer les habitants des opposants, tu vois, parce que nous, on habite sur le territoire, on s'ancre localement. Et du coup, c'est tout le monde qui est contrôlé, quoi, aussi.
Justement, enfin, moi, je me demandais, parce qu'une opération d'envergure comme ça, avec des militaires partout qui bouclent plusieurs villages, enfin, au moins deux sur le coin, plus, comme tu disais, à Commercy et à Verdun, est-ce que... Enfin, la population réagit de quelle manière vis-à-vis des gens qui sont opposés à Cigéo?
Bah, y a un élan de solidarité énorme, tu vois. Après, je vais pas te parler de mon histoire personnelle, mais on a réussi, du moins, à cacher énormément de matériel grâce à la solidarité des habitants. Et si les gendarmes nous écoutent, et ben voilà, je leur dis franco, quoi. Et oui, ils ont complètement raté leur opération parce qu'il y a eu de la solidarité dans les villages et qu'on se croyait... Y a des moments, tu sais, que tu revis, t'as vraiment l'impression d'entendre parler de la résistance, tu sais, des gens qui mettent sous le manteau des ordinateurs, du matériel informatique. C'était assez drôle, quoi, toutes les petites astuces qu'on a eues et la solidarité qui est née dans un moment, tu vois, dans un moment de violence, en fait, intense.
Oui.
Et ben, c'est là où il y a des choses qui se... Les camps se dessinent, en fait.
Mmh.
Les gens aussi décident de t'aider, quoi, en fait. Il y a quelque chose d'instinctif.
Mmh.
Et c'est ça qui est très beau aussi, tu vois, parce que ce qu'on a vécu ces derniers jours, c'est quelque chose de lourd, mais on sent aussi que ça nous renforce, parce qu'il y a cette solidarité qui a dépassé aussi les villages locaux, hein. Il y a eu 20 rassemblements à travers toute la France, quoi, donc c'est pas rien. Il y a un élan, en fait, il y a une petite vague sur laquelle il faut continuer à surfer, quoi.
Mmh. Oui, avant de parler des soutiens, des solidarités multiples qui se sont manifestées, je voulais que tu nous rappelles une anecdote. Enfin, c'est pas une anecdote, c'est un truc qui s'est passé à Gondrecourt chez quelqu'un qui est kiné. Moi, j'ai découvert ça tout à l'heure, j'étais ahuri de cette escouade banalisée qui circulait dans le village. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu cette histoire?
Ouais, du coup, les gendarmes, le territoire avec soit des fourgons et soit aussi des voitures banalisées, des dusters, donc c'est des 4x4 gris avec des vitres teintées, et souvent ils s'arrêtent devant les gens et les prennent en photo. Et là, c'est ce qui s'est passé devant le kiné de Gondrecourt, donc ils prenaient en photo toute la famille en disant oh, elle est belle votre maison, on va l'acheter votre maison, ah, elle est vraiment belle, et ils continuaient à prendre en photo, et donc le gamin a commencé à dire, mais arrêtez, elle n'est pas à vendre, sortez de chez moi, allez-vous-en. Et il y avait un maillet en plastique, il leur a lancé, mais il ne savait même pas que c'était des gendarmes. Et là, du coup, les gendarmes sortent en tenue anti-émeute, avec des armes, avec un FAMAS, et là, le menotte, et l'embarque même pas à la gendarmerie, parce qu'ils savent, vu que ce n'est pas des gens du coin, ils ne savaient pas où était la gendarmerie, ils l'amènent tout droit à l'endroit. Donc ça, c'est une histoire assez étonnante, et ils l'accusent de homicide volontaire envers les forces de l'ordre. Donc c'était quand même...
Juste tentative, je pense.
Juste tentative. Une tentative. Non, ça serait trop beau. Mais voilà, en fait, ouais, tentative d'homicide, puis ça a été reclassé en violence vis-à-vis des forces de l'ordre, mais ça reste quand même un gros enjeu, et ça montre aussi la pression que vivent tous les habitants du coin, quoi. Tu vois, se prendre en photo, être pris en photo tout le temps, quoi,
Oui, alors je crois qu'il faudrait parler aussi de ce qui se passe, de la pression qui est mise en forêt aux différentes vigies, quoi, aux différents camps de la forêt, parce qu'on a tendance à un peu oublier, mais il y a pas mal d'occupants et occupantes en forêt et qui reçoivent une pression aussi énorme, quoi.
Ouais, je crois que c'est des tactiques qu'on retrouve aussi dans les quartiers populaires. C'est tu vois, arriver avec la sirène à 6h du matin, montrer sa présence, quoi. Montrer que tous les occupants du bois, ils sont en sursis, que les gendarmes ne sont jamais bien loin, quoi. Et ça, c'est... Donc, ils arrivent à 6h du matin avec la sirène. Parfois, c'est à minuit, ils arrivent avec les spots et la lumière. Et puis, parfois, ils font des petites missions où ils avancent en lisière du bois avec les flashballs. Donc, oui, c'est tout le temps mettre l'attention... faire en sorte que ça dérape, qu'on réponde, enfin voilà, c'est chercher l'affrontement, en fait.
Chercher à pousser à bout, en fait.
Ah oui, nous pousser à bout, c'est clair. Mais là où c'est intéressant, et en fait, ils poussent à bout tout un territoire, quoi. Et c'est le territoire qui, j'espère, va devenir en lutte, quoi. On en est aux coprémices, mais tu sens que cette stratégie de la surprésence policière, eh ben, elle crée vraiment une exaspération commune. Ça sera peut-être le début, un point commun, en fait, à la révolte, quoi.
Alors, justement, il faut qu'on parle du cas de ce jeune agriculteur qui est installé au village, qui, lui, a subi, justement, ce type de harcèlement. Il vit dans la commune de Bure depuis très longtemps. Il était là avec ses parents, et puis je crois qu'il a repris la ferme. Et il a été particulièrement agressé par les mobiles. Est-ce que tu peux expliquer, parce que je crois qu'il va avoir un procès prochainement pour outrage.
Oui, voilà, un agriculteur de Bure va passer le 24 octobre prochain au tribunal pour avoir traité, alors c'est une expression que je trouve assez imagée, de mange-merde un commandant de gendarmerie. Et du coup, il risque, oui, une amende. Et oui, ils sont débarqués à 25 pour lui déposer le papier sur l'outrage. Enfin, donc à 25, ils ont débarqué chez lui. Mais ils viennent aussi sur ses terres parfois avec leur 4x4. Donc, ils détruisent même une partie du champ, quoi. Ils le tassent, ils retournent la terre. Ils se croient tout permis, quoi, ces gendarmes mobiles. Et du coup, tu entends parfois des paroles d'habitants très virulentes, quoi. On va sortir les fusils, ou ne vous étonnez pas ensuite si vous prenez des pierres. Tu sens que finalement, ils ont beaucoup plus le sang chaud que nous, quoi, tu vois. Et oui, ça peut, faut faire attention aussi. Enfin, ça peut déraper, quoi, en fait. On peut, là, on... Nous mettre à bout, quoi.
Gaspard, tu dirais qu'il y a un cap qui a été franchi dans la conscience, tu le disais tout à l'heure en introduction, mais dans la conscience des habitants et dans la relation avec les forces de l'ordre, dont les actes que tu décrivais par rapport à la perquisition seraient, comment dire, la matérialisation. Mais tu dirais qu'il y a quelque chose qui s'est passé, il y a quelque chose qui a basculé.
Bah, il est encore un peu trop tôt pour le dire, tu vois, ça ne fait que quelques jours, et là, on prend juste à peine le temps de se poser en ce moment. Mais ce qui est certain, moi, ce que je ressens plutôt, c'est qu'il y a un sentiment diffus, tu vois, depuis quelques mois, en fait. C'est un sentiment diffus, mais oui, c'est un point d'orgue, quoi. Ouais. Et je m'interroge sur la suite, en fait. J'ai du mal à... Tu vois, là, je marche entre deux champs, là, je retourne à Bure et je croise un fourgon de gendarmerie, là. Ouais. Juste devant moi, là, qui vient de passer. C'est ça, en fait, tu vois, une pression diffuse, quoi.
Et alors, une autre question, puisque j'avais commencé à faire le juriste. Quelles ont été les motivations judiciaires pour justifier de ces perquisitions? Et puis, qu'est-ce qui se passe au parquet, si tu as des informations là-dessus? Parce qu'effectivement, 150 gendarmes plus 4 endroits à perquisitionner, ça fait quand même beaucoup. Il y a une information judiciaire de quelle nature qui a été ouverte, si tu la connais, bien sûr.
Oui, je crois que c'est association de malfaiteurs en vue de commettre des dégradations avec des engins incendiaires sur le bien d'autrui, quelque chose comme ça.
D'accord.
Je ne dis peut-être pas dans la bonne formule judiciaire, mais l'idée, c'est c'est suite au leurs affrontements avec les forces de l'ordre le 15 août, qui, je le rappelle, avaient blessé... Enfin, la violence avait été bien du côté des forces de l'ordre, parce que Robin avait été blessé au pied, et on ne sait toujours pas s'il va être amputé ou pas de ses orteils. Et c'est aussi lié à une action en juin, où l'hôtel restaurant de l'Andra avait été saccagé par quelques individus, quoi.
Et le caractère d'association de malfaiteurs est retenu.
Oui.
Ah, ça craint, oui. Oui. Oui, ben c'est un caractère qui permet justement au parquet de procéder à des mesures comme ça, qui sont pas exceptionnelles, mais en tous les cas qui leur permettent de sortir des outils de droit sur les perquisitions massives. Quoi.
C'est, ben, vraiment... c'est retenu, disons que c'est notifié par le procureur, je pense, mais ou le juge, mais c'est pas encore retenu dans les faits. Et dans
ben oui, mais c'est retenu, ça leur donne des pouvoirs spécifiques, ouais. Quoi. Tu vois, et notamment sur les individus et sur les choses qui pourraient passer après sur d'autres types d'interventions sur des individus. On va dire que c'est un super qualificatif, quoi, une super inculpation. Quoi. Ouais.
Pour en revenir à la journée de perquisition, est-ce que y a eu des gens qui ont été ce jour-là embarqués, inculpés ?
Alors, il y a eu plusieurs personnes pour vérification d'identité. Et une personne pour outrage, qui a été interpellée, dont il va y avoir des suites, un procès notamment.
Ah oui, d'accord.
Alors tout à l'heure, tu as commencé à parler de la solidarité. Faudrait que tu décrives un petit peu, parce que ça a été assez spontané et important dans toute la France. Est-ce que tu peux un peu rappeler quelques éléments de cette solidarité?
Oui, alors il y a eu 20 rassemblements à travers la France. Ça a été quelque chose d'assez spontané, éruptif, on va dire. Il y a eu d'abord des petites actions devant la préfecture, que ce soit à Bar-le-Duc, à Commercy. Il y a eu une manifestation à Paris, quand même 150 personnes. Donc on voit bien que nos réseaux fonctionnent bien, en fait, et qu'on peut aller assez vite, quoi, et faire pression, même à Toulouse, quoi. À Toulouse, il y a eu 70 personnes le soir même, quoi, devant la préfecture. Il y a à Montpellier, à Angers, à Blois, à Nancy, à Metz.
Dijon aussi, il me semble.
Dijon, Lyon, bref, il y en a eu à Nantes, évidemment, à Rennes.
À Reims aussi.
À Reims, oui, ouais. Sans oublier. Et donc, on sent que c'est encore un... c'est les débuts, quoi. C'est les prémices, en fait, de quelque chose comme un ensemble de comités de lutte ou de soutien qui va se renforcer, en fait, dans les mois qui viennent, et notamment aussi en s'aidant des collectifs qui existent déjà en soutien à Notre-Dame-des-Landes. Et du coup, on sent qu'il y a du répondant, quoi. Et c'est très intéressant, et c'est pour ça qu'on appelle aussi fin octobre, donc le week-end du 21 et du 22 octobre, à converger vers Bure, que tous les comités de soutien puissent venir à Bure pour qu'on discute des actions décentralisées qu'on pourrait développer et qu'on construise ensemble une cabane collective, quoi, une cabane qui serait le lieu d'accueil pour tous ces comités de soutien. Et donc ça aura lieu le 21 et 22 octobre à Bure, quoi.
D'accord. Ça sera à quelques jours, à deux jours du procès, donc, du copain agriculteur.
Du rendu du jugement.
Oui. Rendu du jugement de Jean-Pierre Simon, oui. Qui est aussi agriculteur. Mais il y a donc David, c'est bien ça, qui passe en procès le même jour, à Bar-le-Duc.
Exactement.
Voilà.
Donc, on va avoir un mois d'octobre assez chargé, cette dernière semaine notamment, parce que le 28 aussi, le 28 octobre, il y a la première foire paysanne qu'on va lancer à Bure, quoi. Parce que ça fait aussi l'objet de nos envies et de nos rêves sur ce territoire, c'est de le repeupler, de le redynamiser aussi à notre manière. Et donc une foire paysanne d'agriculture bio avec des agriculteurs locaux, ça va être la première fois qu'on va organiser ça et ça va être assez intéressant, quoi.
Et alors, puisqu'on en est aux dates, j'ai cru comprendre que fin octobre et pendant le mois de novembre, il y a tout un cycle de conférences et de rencontres dans différents lieux, villages, me semble-t-il. Tu peux nous en parler un petit peu?
Oui, alors c'est Marie, une amie qui est une ancienne permanente de la maison de résistance qui va faire des conférences gesticulées, justement, des conférences théâtrales sur Bure dans les villages. Il va avoir aussi une amie journaliste, Isabelle Masson, qui étudie en fait le parallèle entre l'enfouissement des décès de la Première Guerre mondiale en Meuse et l'enfouissement des décès nucléaires en Meuse. Donc on va avoir des débats assez intéressants. L'idée, c'est pareil, c'est de continuer à rencontrer les locaux, parce qu'on sait bien que une lutte, ça se gagne pas, une lutte de territoire, ça se gagne avec avec les habitants d'un territoire, quoi. Et on a envie de faire ce travail là, quoi, d'ancrage et de lien avec tout le monde ici, quoi.
Oui, et pour Isabelle Masson, effectivement, on a assisté à sa conférence.
Oui, parce que cet été,
lors des
burlesques, une conférence.
Et effectivement, elle fait des liens entre les déchets militaires de 14-18 et en fait ce qu'elle décrit comme un territoire sacrifié donc le territoire meusien sacrifié pour le stockage ou l'oubli ou l'abandon de ces déchets militaires et ce qui se préfigure avec ce projet de centre CIGEO, quoi. Donc c'est assez intéressant, sa démarche de recherche. Voilà, et bien écoute, quoi d'autre encore? Il y a sûrement une multitude de choses à dire, évidemment. Notamment, en ce moment, vous faites pas mal de récoltes?
Bah oui, complètement. Là, je reviens d'un champ de patates. Du coup, il faut se rappeler qu'il y a déjà 2 ans, on a squatté un champ... Un champ à l'Andra, où devrait se situer la future voie ferroviaire. Et du coup, aujourd'hui, il est semé par les opposants. Et on a récolté, trois tonnes de blé et plusieurs tonnes de pommes de terre. Dans l'objectif, pareil, de nourrir la lutte, de faire du pain dans les villages alentours, et puis de faire des cantines solidaires à Bar-le-Duc et ailleurs, quoi, avec toutes les légumes qu'on récolte, quoi.
Ok.
Bon, ben c'est chouette. Enfin, je pense qu'on est tous ici à être solidaires de ce que vous faites et à vous transmettre nos amitiés. On va être régulièrement en contact avec vous pour tenir au courant de ce qui se passe au fur et à mesure, rappeler les différentes dates importantes. Je pense que le 21-22, comme tu l'as dit, c'est quelque chose d'important. Et les fameuses dates judiciaires aussi le sont pour le 24 octobre. Je pense que c'est bien que les gens se mobilisent pour montrer que les gens qui habitent sur place, on les laisse pas tomber.
Ouais, je pense que effectivement là, le coup de pression qui a été mis par l'intermédiaire de cette opération, il a vocation à la fois terroriser les gens et enclencher des procédures là dans lesquelles on n'est pas rentré. Mais bon, voilà, bon courage à vous. Et puis, de toute façon, on aura l'occasion de se voir. Et toutes nos amitiés, nous, on va passer à autre chose, à moins qu'il y ait de faux trucs.
Hein. Juste rajouter une chose. On en a discuté assez longuement. Il y a le projet que vous fassiez une chronique régulière sur cette antenne et ici même, sur cette émission... voilà, j'espère que l'idée fait son chemin et qu'on se retrouvera bientôt régulièrement sur les ondes, quoi.
Ouais, ça serait génial, tout à fait.
Eh bien, salut Gaspard, bon salut. Courage à vous.
Salut, à bientôt.
Salut, à bientôt.
Ciao. In the morning, do my honey.
walk me out in the morning dew today. Can't walk you out in the morning dew, my honey. I can't walk you out in the morning dew today. I thought I heard a baby cry this morning. I thought I heard a baby cry today. You didn't get no baby cry this morning. You didn't hear no baby cry today. Where have all the people gone, my honey? Where have all the people gone today? Well, there's no need for you to be worrying about all those people.
Bonsoir. Alors maintenant, on a Fabien et Philippe. On va parler d'un fameux coup de poker à Croix-Rouge qui s'est passé la semaine dernière. Il y a 2 semaines maintenant, c'est ça, hein, et qui s'est dénoué il y a 1 semaine, oui, pardon. Mais ça a commencé un dimanche et ça s'est terminé dans la semaine. Un fameux coup de poker parce que qui a coupé l'herbe sous le pied au préfet qui voulait expulser un campement, le campement Eisenhower, en face du CADA. Et donc, vous avez décidé collectivement avec les migrants de l'évacuation de ce campement pour éviter les traumatismes et puis de se faire saisir tout le matos. Donc, c'est à vous de parler du dénouement, comment ça s'est déroulé, l'implantation sur la fac, etc., les négociations qu'il y a eu avec les différents protagonistes, vice-présidents, et puis le directeur, et la réaction des étudiants et des professeurs. Voilà, on vous écoute. Ouais.
Je vais te laisser, Fabien, peut-être faire l'historique, parce que je vois que tu as pris des notes, et tu es un prof de fac très sérieux. Donc, avant d'aborder tout ça et de relater ce qui s'est passé, je voudrais peut-être piquer un coup de gueule sur le... Il y a eu un emballement médiatique à partir du lundi soir, on va dire. Et depuis, enfin déjà ce soir-là, la plupart des médias ont quand même mis l'accent sur l'idée de l'invasion. Ont mis l'accent sur les chiffres, là, 40 migrants, ont complètement orienté la chose d'une manière un peu gerbée, quoi, je trouve. Et puis d'autre part, ont totalement déshumanisé la question, puisque bon, c'est pas des unités hein, dont on parle. Hein. Je crois que c'était dans les camps de concentration, on parlait des unités, ça voulait dire les juifs. Là, c'est des êtres humains. Donc, nous, ce qui nous satisfait, c'est que ce soir, bon, la plupart d'entre eux sont dans une situation quand même plus viable. On en a croisé par hasard, ils souriaient, ils étaient, ils remerciaient.
Plus acceptable, voilà. Souriant.
Et je trouve que les médias ont un peu ressassé cette idée d'invasion du campus, ce qui est faux d'ailleurs, personne n'a envahi le campus.
Et c'est incroyable en plus, parce que pour ceux qui ont eu, il y a quelques années maintenant, ça commence à dater, eu l'habitude d'aller à la faille dans les années 90, tous les ans, voire deux fois par an, il y avait une occupation avec des caravanes, avec des gens qui se branchaient sur le réseau de flotte, que ce soit sur le campus Croix-Rouge, mais aussi sur le campus du Moulin de la Housse. Et tout ça, ça se passait extrêmement correctement avec le maintien des cours, sans aucun souci vis-à-vis d'un côté comme de l'autre. Et cette situation était gérée et tranquillement, très très tranquillement. Donc vraiment, sans déconner, cette histoire d'invasion, le choix des termes est en plus très très joli. Quand même, une note d'un parti pris bien établi, quoi. Mais je me tais, peut-être qu'il faut venir effectivement là-dessus pour dire que c'est l'aboutissement d'une situation de merde qui dure pour les réfugiés et les migrants depuis 6 mois, 7 mois maintenant dans cette ville, un peu plus même.
Moi, juste préciser un truc, c'est que quand on a vu les vice-présidents, alors qu'on était en train de monter la tente d'une famille tchétchène, on a eu ces vice-présidents qui nous ont tenu un propos immédiatement nous interpellant, nous disant « arrêtez ». Et on leur a dit « monsieur, mais non, on n'arrête pas ». Vous prenez votre dictionnaire, vous regardez la page « urgence », au mot « urgence ». On n'arrête pas. Et ils ont commencé à tenir le discours de « vos migrants, les migrants risquent de mettre en danger mes étudiants, nos étudiants ». Et après, ils ont inversé leur discours en disant « non, non, mais c'est les étudiants qui risquent d'agresser les migrants ». C'était du n'importe quoi, du grand n'importe quoi. Bon, bref, allons-y.
Avec des leçons majeures, je crois qu'on peut tirer de ça, c'est qu'on a gagné comment ? On a gagné grâce au rapport de force. Le rapport de force qu'on a établi à l'aide des migrants, qui est bien évidemment, c'est surtout eux, puis à l'aide de... Et puis parce qu'on était pas mal organisé, parce qu'on a établi un rapport de force avec l'université et donc avec l'appareil d'État. On a fait 3 manifestations, une première manifestation au mois de mars, une deuxième au mois de juillet, puis une troisième la semaine dernière, qui ont permis de débloquer la situation. Mais tout ça, c'était extrêmement long, c'était extrêmement difficile. Et voilà, je pense que ça, il faut revenir sur l'histoire un petit peu longue de cet événement-là pour comprendre pourquoi on en est arrivé là. On n'est pas arrivé sur le campus... Par hasard, ils sont là depuis le mois de novembre. C'est une jeune femme qui a trouvé une maman avec sa fille dans la rue, qui a décidé de l'héberger, puis des tentes. Et puis une association, Saint-Vincent-de-Paul, a décidé de financer le logement entre novembre et février 2016-2017. Et puis plus de logement parce que plus d'argent. Et donc obligé de les placer ou devant le CADA, avenue Eisenhower Croix-Rouge, parce que c'est là où ils font leur demande d'asile. Au bout de 3 mois, le Race Habitat, qui est propriétaire de ce petit bout de terrain, a décidé de demander à la police de les expulser. Pourquoi ? Parce qu'ils faisaient une petite sauterie à 2 pas de là pour inaugurer un centre d'affaires avec petit four et champagne. Et donc, ils sont spontanément allés juste en face sur le camp Saint-John-Perse. Ça, c'était au mois de fin juin. Donc, tout l'été, ils sont restés au camp Saint-John-Perse. que
au parc.
Au parc, oui, exact. Hein, c'est un lapsus tout à fait révélateur. Parce
spontanément, mais avec des soutiens quand même.
Avec des soutiens.
Avec tous les soutiens.
Voilà, ils ont pu s'installer. Il y a un peu d'espace, donc ils ont pu mettre leurs tentes. Quelques infrastructures ont été construites, comme un petit toit, des toilettes sèches. Mais l'été se terminant, et puis surtout, certains voisins sous le nom d'une association Lézardière, je crois, des résidents dans le coin, ont jugé qu'ils étaient dérangés par la présence de ces gens-là, et donc ils ont demandé à monsieur le maire de les mettre dehors, et c'est la raison pour laquelle les gens qui étaient présents là, les soutiens qui étaient présents là, ont décidé, en concertation avec eux, on leur a demandé, il leur a été demandé d'aller, voilà, on peut aller là, on peut aller là, et puis ils ont choisi d'aller sur le campus. Et c'est là qu'on a décidé, enfin qu'ils ont décidé surtout d'occuper le campus. L'idée au début, c'était quoi? C'était d'obtenir la solidarité des étudiants. Voilà, parce que l'université, ça veut dire universel, parce que les étudiants, c'est un public, enfin public, c'est des gens qui sont assez sensibles à ces questions-là, mais le président nous a pris de court en choisissant de fermer l'université. Deux prétextes, c'était le premier état d'urgence, le deuxième c'était sécurité. Sécurité, ouais, Philippe l'a dit tout à l'heure, sécurité de qui? Sécurité de quoi? Sécurité des étudiants. Plusieurs centaines, plusieurs milliers d'étudiants qui viennent tous les jours seraient mis en difficulté par une quarantaine de personnes, dont 13 gamins et deux personnes de plus de 60 ans. Alors sécurité des migrants eux-mêmes. On a vu quoi? On a vu trois affiches racistes. Mais voilà, il n'y a pas eu de danger là-dessus. La suite, elle s'est faite assez rapidement. On a organisé une manifestation. Donc, d'abord, on a fait une assemblée. Les étudiants ont organisé une assemblée générale. Et là-dessus, les étudiants ont joué un rôle décisif. Voilà. Parce que depuis plusieurs mois, on était aux côtés des migrants. On les accompagnait. On essayait de mettre une pression via les médias. On allait voir le maire, mais rien ne se passait. Puis là, ils arrivent sur le campus. Les étudiants, une centaine d'étudiants viennent, ils organisent l'assemblée générale, ils organisent une manifestation, et puis là, le préfet lâche. Le préfet lâche, le lendemain matin, après quelques menaces, refus de nous recevoir qu'en délégation à la sous-préf, le lendemain matin, il accepte de loger. Voilà. Alors, parce que loger, c'est rien, loger. On a l'intention qu'ils aient des papiers. Surtout eux, on a l'intention d'avoir des papiers. La revendication là, c'était juste de les loger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire appliquer la loi. Donc il a fallu 9 mois pour que l'État français applique la loi. Mais voilà, il a fallu ça, il a fallu mettre un coup à la fin pour que ça passe. Sachant que appliquer la loi, pourquoi? Parce que aucun d'entre eux sur le camp n'est en situation illégale. Donc tous sont demandeurs d'asile. Une certaine étape du procédure de la demande d'asile. Certains, c'est au début. Certains, ils ont déjà eu leur rendez-vous et donc sont demandeurs d'asile. Et donc c'est parfaitement légal. Et donc la fonction de l'État français, il n'a même pas à discuter, c'est de loger ces personnes-là. Voilà. On a juste réussi à faire appliquer la loi. Donc il n'y a pas à s'en augurer de ça. Mais n'empêche qu'ils sont mieux sous des toits, même si c'est pas le grand luxe. Mais ils sont sous des toits. Ils sont chauds, ils ont une douche, ils ont de l'eau courante.
Philippe, qu'est-ce que tu voudrais rajouter par rapport à ça?
Je voudrais rajouter par rapport aux gens de la Lézardière. On les a jamais vus venir lézarder au parc Saint-Jean-Perse cet été. Je pense que cet article-là, je fais référence à l'article de l'Union d'une demi-page qui leur a été consacrée. Il est totalement dégueulasse, quoi. Parce qu'il parle d'un parc qui est devenu infréquentable. Le titre de l'article, c'est Notre parc est en passe de devenir un petit Calais. Il parle des odeurs nauséabondes, etc., de la saleté, des immondices. Ils en présentent un tableau totalement apocalyptique. Alors que moi, ce camp, comme toi, Fabien, on y allait toutes les semaines, plusieurs fois, des fois. Et j'ai jamais perçu des mauvaises odeurs. J'ai peut-être le nez bouché en ce moment, mais cet été, je l'avais pas. Donc, le dénigrement a quand même été orchestré. L'article est intervenu juste avant la menace d'expulsion dirigée par Robinet.
Oui, c'est une construction.
C'est une construction, voilà.
Pour habiter dans le quartier, je te confirme que l'association La Lézardière n'existe absolument pas, que ce soit en termes réels, avec des gens qui défendraient potentiellement un cadre de vie, et puis d'autre part, dans une réalité concrète, à l'intérieur de défense des droits des locataires et du cadre de vie des locataires, puisque visiblement, alors en l'occurrence, ça n'avait pas spécifié, mais pour éviter que les migrants reviennent s'installer devant le CADA, il y a la petite bande de terre qui a été défoncée et labouré et recouvert des rochers, quoi. Et par contre, de l'autre côté, environ 50 mètres, on a donc des entreprises qui sont dans le nouveau centre d'affaires, qui utilisent les poubelles réservées aux locataires. Évidemment, le produit de leurs déchets déborde régulièrement, et puis ils doivent confier ça certainement à des précaires qui n'ont pas forcément envie de taffer, quoi. Et donc régulièrement, le dimanche, l'entrée de l'esplanade, de l'ex-esplanade Eisenhower, donc de l'allée Maurice Lemaître maintenant, est quasiment bouchée par des déchets. Et effectivement, ça pue, c'est dégueulasse. Hein, et quand il y a un coup de vent et qu'il flotte, ben, ça crée vraiment... Mais alors, de l'autre côté, bon, alors, effectivement, le parc Saint-Jean-Perse, c'est le parc de Croix-Rouge où tout le monde va se balader. Il y a des terrains de foot, il y a des terrains de boule, il y a des jeux pour les enfants, quoi. Mais dans les discussions qu'on pouvait avoir au quartier... visiblement, bon, évidemment, il y a tout un tas de problèmes qui peuvent arriver quand il y a un regroupement de personnes comme ça, quoi. Mais bon, il n'y avait pas du tout, au contraire, il y avait de la solidarité entre pauvres et pauvres, quoi. Il y avait toujours des gens qui ramenaient des trucs, quoi. Il y avait toujours des gens qui ramenaient des trucs, qui pensaient, qui demandaient, etc., etc.
Oui, je me souviens, cet été, on avait fêté l'anniversaire d'un couple qui était donc réfugié, là. On était sur un grand tapis par terre, il y a des gens qui passaient du quartier, il y a une dame qui passait, et son petit chien, puis son mari. Enfin, le mari n'était pas en laisse, mais... Et donc, ils sont venus spontanément, ils nous ont demandé, est-ce qu'on a vu qu'il y avait des enfants, est-ce que vous avez besoin qu'on vous apporte des choses, voilà. Donc, c'était des gens qui ne connaissaient pas du tout ce camp, ils sont venus vers nous, c'était pas un cas isolé, quoi. Donc, il y avait aussi des élans de solidarité dans Croix-Rouge de la part des habitants, quoi.
À propos de l'association La Lézardière, d'ailleurs, j'ignore qui a écrit cette lettre-là, mais certainement qui a écrit au nom de 200 personnes, mais certainement pas 200 personnes qui l'ont écrite, puisque la seule membre de l'association La Lézardière était aux côtés des migrants depuis le mois de novembre. Et elle s'est sentie offusquée par cette lettre à tel point qu'elle a écrit une lettre publique de désolidarisation avec l'association La Lézardière, parce qu'elle a vu la situation. Elle a écrit de manière très claire qu'il n'y a aucun problème de saleté, aucun problème d'odeur, quoi que ce soit. Les choses se faisaient de manière tout à fait humaine, et le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent très régulièrement, tous les jours il y avait quelqu'un qui était là pour les soutenir, ça montrait plus une solidarité du quartier qu'une haine, bien au contraire, à croire que cette lettre Lézardière a été dictée par le maire ou par le préfet, parce qu'au contraire, il y avait de la solidarité. Il se peut qu'à l'origine, il y avait des craintes de la part des craintes qui sont certainement naturelles, parce que face à l'inconnu, on ne sait pas trop. Mais ces craintes se sont très très rapidement dissipées face au comportement tout à fait normal des migrants qui étaient là. Voilà.
Pour en finir sur cette assaut, on ne va pas leur faire trop de publicité. Ce qu'on sait, c'est qu'à l'intérieur des organes de gestion de la population, et notamment dans ces grands ensembles comme à Croix-Rouge, tu as des pseudo-conseils de vie participative, des relais des politiques municipales, et qu'il y a des associations ad hoc qui sont créées comme ça, avec des gens qui n'ont pas de réalité sur le terrain, mais qui ont la possibilité d'incarner des paroles publiques et municipales, et justement d'utiliser et d'incruster ces conseils de vie, ces conseils représentatifs, etc., etc., à la fois chez les organismes bailleurs, les bailleurs sociaux, mais aussi dans les organismes de représentation municipale, pour justement relayer la bonne parole et éventuellement, si jamais il y a des velléités de la part des habitants, s'appuyer là-dessus pour étouffer en tous les cas... déminer le terrain, quoi. Bon, alors, la situation aujourd'hui, c'est quoi? C'est 45 personnes qui ont été relogées, c'est ça?
41
personnes. Relogées. En 72 heures. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. C'est quoi la justification de la préfecture? Pourquoi maintenant et pourquoi pas avant?
Je pense que le cocktail réfugiés étudiants a dû faire peur quelque part à des personnes, c'est évident. D'autant que les étudiants avaient quand même proposé un truc que je trouve génial, c'était d'offrir une protection humaine le mardi soir, parce qu'on pensait que le mercredi il y allait avoir une évacuation policière. Donc ils ont proposé d'aller chercher des tentes et de coucher là pour faire partie des évacués et pour aller faire une sorte de mur, voilà, une protection humaine, c'était leur idée. Et donc ça, je pense que ça a dû faire peur aussi aux autorités, parce qu'intervenir dans un milieu étudiant, encore on veut bien tabasser un peu des migrants qui viennent d'ailleurs, et puis voir deux, trois bénévoles, barbus, chevelus ou chauves, peu importe, mais des casse-pieds de première, mais taper sur des étudiants, là, ça pose un petit peu de problème.
Surtout que leur manifestation devant la sous-préfecture était extrêmement dynamique. Il y avait 150 jeunes, je pense, 150 étudiants, hein, plus une cinquantaine de gens comme nous, mais... Ils étaient extrêmement dynamiques, extrêmement déterminés, on peut dire déterminés. Ouais. Et effectivement, la sous-préfecture, la préfecture a dû se dire, oulala, si jamais ça continue comme ça, on risque d'avoir vraiment, c'est ce qu'on appelle finalement une instauration d'un rapport de force qui a fait que ils ont gagné. Quoi.
On sentait qu'il y avait vraiment un élan, parce que dès le dimanche, on était en train de discuter du déménagement et des lieux possibles pour éviter l'évacuation. Il y avait déjà des étudiants sur place, et ceux qui étaient là étaient, je trouve, particulièrement solidaires et remontés pour cette cause. Donc, et après, ils ont dit que l'événement montait en puissance, qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient prêts à manifester et aller plus loin. Quoi. Voilà.
Donc le président de l'université avait décidé un référé en expulsion qui devait avoir lieu le mercredi après-midi, sauf que le mardi après-midi, une grosse manifestation, peut-être 200, peut-être 300. Puis le mardi soir, une assemblée générale qui décide l'occupation du campus par les étudiants. Le cocktail de ces deux-là a certainement obligé la préfecture à reculer. Et donc le tribunal, le TA, a été annulé. Voilà.
Alors l'attitude de l'administration, parce que moi je discute avec les personnels. Certains personnels, notamment des personnels de la bibliothèque universitaire, s'étaient impliqués dans la solidarité réelle, concrète et matérielle. Et bon, alors pour ceux qui voient à l'université, on était vraiment en bas là, hein, sur la grande partie pelousée verte, donc ça dérangeait vraiment personne du tout, quoi. Mais tous les bâtiments étaient fermés, même la bibliothèque universitaire. On sait jamais des fois qu'un migrant arrive à rentrer pour prendre un livre. Mais surtout, ce qui est assez trash, quoi, c'est qu'aucun point d'eau n'était ouvert, quoi, à ma connaissance. Il y avait un gymnase qui était pas très loin. On aurait pu tout à fait imaginer une ouverture, ne serait-ce que raisonnée ou en termes d'heures.
On lui a demandé parce qu'il est venu nous voir. C'était le lundi en début d'après-midi, très gentiment, pour nous dire qu'on n'avait rien à faire là et puis qu'il allait faire en sorte qu'on ne reste pas longtemps. Et donc une sorte de dialogue, c'est un peu instauré, disant que lui parlait, puis nous on parlait en même temps que lui, jusqu'à ce qu'il cesse et puis qu'il écoute. Et puis, en fait, il a été obligé d'admettre à contre-cœur qu'effectivement, il n'y avait pas de danger. Les 41 migrants n'allaient pas sauter à la gorge de ses étudiants et d'une. Et puis surtout, on lui a demandé vraiment d'ouvrir au moins un bâtiment, quoi, pour que les réfugiés puissent avoir accès à l'eau et aux toilettes. Et ça, il a refusé catégoriquement, alors qu'il y avait des bâtiments tout proches qui ne servaient pas aux cours, etc. Donc on sentait vraiment une détermination, quand on avait l'impression de parler à un mur. Et c'est ce qu'il lui aussi, parce qu'il a dit, de toute façon, on ne peut pas discuter avec vous. Donc, ce que j'ai bien aimé quand même dans cette discussion, qui ressemble à une brève altercation, c'est qu'un copain qui s'appelle Olivier, il lui a donné une belle leçon de vocabulaire pour finir. Il lui a rappelé le sens du mot « universita », c'est-à-dire « tous les hommes ». Voilà, ce que lui avait parfaitement oublié. Il peut être président d'université.
Mais il y a un nom quand même, ce président d'université.
Monsieur Gelé.
Ouais, mais c'est...
Et je crois qu'il est intervenu dans la presse locale, dans l'Oignon, en disant que eux aussi, ils accueillaient des migrants chaque année. Il y avait une trentaine de migrants qui assistaient à des cours d'alphabétisation. Comme si c'était pour ce...
Alors, hein. Petit message personnel. Olivier, c'est bien, tu as le son de vocabulaire à porter, parce que maintenant, le président de l'université sait ce que ça veut dire université. Merci pour lui.
Oui, enfin bon, Monsieur Gelé, aussi, on aimerait bien connaître sa position sur les étudiants qui ont des problèmes avec le renouvellement de leur titre de séjour quand ils arrivent à la fin de leur année universitaire. Si il a une véritable passion et un intérêt pour les migrants et leur situation de confort, hein, ne serait-ce que leur situation de vie, alors qu'elle soit matérielle, de ne pas habiter dans des tentes, effectivement. Mais la situation de vie, c'est aussi la situation de capacité à se projeter dans un avenir. Donc, Monsieur Gelé, apparemment, il a un intérêt pour les migrants. Donc, il va appuyer de toutes ses forces, maintenant, les revendications des étudiants et de RUSF qui ont des problèmes pour renouveler leur titre de séjour. C'est une bonne chose, nous l'apprenons. Nous l'apprenons, on en apprend tous les jours. Quoi.
Alors, je ne suis pas sûr qu'on ait le soutien de Guillaume Gelé. Pourquoi ? Parce que Guillaume Gelé, dans un temps lointain, peut-être dans une vie passé, avait une activité de syndicaliste tout à fait respectable, qu'il n'a plus aujourd'hui. Aujourd'hui, il s'est présenté à nous comme le patron des lieux. Je suis le patron de cette université. Et je veux que
tourne. L'université, c'est une entreprise. Hein,
et je, voilà, et je veux que ça tourne. Et donc, ça dérangeait, ça empêchait l'entreprise université, qui depuis la LRU est semi-privatisée, ça l'empêchait de tourner correctement, de fonctionner correctement, et donc de... Non pas de dégager de la plus-value, puisqu'elle ne les dégage pas en l'état, sauf que l'université, elle sert à quoi? Elle sert à former de la force de travail pour plus tard dégager à l'avenir de la plus-value. Donc c'est comme ça qu'il se conçoit, comme un patron. Et donc un patron qui ne voit pas son entreprise fonctionner, eh ben, il fait un lock-out où il envoie la police. Voilà, c'est comme ça qu'il fonctionne. Alors après, voilà, il y a ça, mais il n'a pas pu aller jusqu'au bout de ça, parce que peut-être qu'il nous a tenu ce discours-là à nous, parce que derrière lui, il y avait la rectrice, il y avait la sous-préfète, il y avait directeur de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc face à eux, il ne pouvait pas dire autre chose que le discours qu'il a tenu. Mais il ne reste pas moins que la communauté universitaire était contre lui. Communiqué de l'UNEF contre lui, communiqué du SNESUP, syndicat des enseignants qui est contre lui. Une lettre co-signée par 60 enseignants du campus, c'est-à-dire une proportion importante des enseignants, qui disent quoi? Ben nous, ça ne nous pose pas de problème. Nous, on a envie d'enseigner, y compris en leur présence, y compris avec eux, y compris pour eux, on a envie d'enseigner parce que nous, ça ne nous dérange pas, bien au contraire. Parce que nous, on est université. Voilà, université, c'est pour tous. Voilà, c'est...
Oui, mais en plus, on est à Croix-Rouge. Qu'est-ce que c'est que ces espaces où on peut plus se visibiliser, quoi? C'est-à-dire que des étudiants peuvent pas traverser un quartier populaire, habiter dans des... étudier dans des espaces où il y a des HLM. Pourquoi il faudrait cacher recouvrir les espaces et les problèmes et les problèmes de misère? Alors nous, on l'a souvent dit dans les interventions qu'on a eues lors des initiatives qu'on a pu avoir en faveur des migrants, que ce soit les mineurs... isolés étrangers les autres migrants, quoi. La lutte, ça paye. Et parfois, le trouble à l'ordre public, ça permet de mettre la question sur la table, quoi. Espérons que ce début d'auto-organisation et cette organisation qu'il y a pu avoir, ça va marquer les esprits pour que si jamais la question venait à se reposer, elle se reposera, parce que visiblement, la préfecture n'a pas envie de créer des conditions adéquates de l'accueil des demandeurs d'asile, on puisse se souvenir de ça pour pouvoir de nouveau reposer la question, quoi.
Moi, j'ai un souhait par rapport à ça, c'est qu'il n'y ait pas d'isolement de nouveau, que les gens se retrouvent pas isolés, parce que ce qui se passe parfois quand certains sont replacés dans des institutions, par exemple, comme je pense à la Croix-Rouge ou d'autres lieux, ils sont coupés du reste des collectifs, quoi.
Alors avant même le déplacement sur Croix-Rouge, un certain nombre étaient envoyés ailleurs, notamment à Florange, tout seul ou en couple. Il y avait un couple qui est parti, puis une autre personne qui est partie. Là, parmi ceux qui ont été relogés, il y en a qui sont relogés à Châteaudun, qui sont relogés à Caen, dans des villes très loin, où il n'y a pas de réseau collectif qui puisse les aider. Donc là, on est un petit peu désarmé parce qu'on ne sait pas trop comment...
Je te rassure tout de suite, à Caen, il y a ce qu'il faut. Hein.
Je te rassure, je te remercie, j'étais
pas... beaucoup plus important qu'à Reims.
Ça peut être à la fois quelque chose, de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat! Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, le comité d'Enco Sissoko de Reims, ne tournons pas la page, est là pour vous informer et surtout informer les mineurs isolés étrangers. Donc il y a eu un rendez-vous le samedi prochain, le 30 septembre à 14h, à l'AEFTI, rue Prieur-la-Marne, quartier Jean Jaurès. Donc il y aura une assemblée juridique, il y aura d'autres ateliers, il y aura des films, des vidéos qui vont passer, il y aura aussi...